Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous souhaitez, enfin l'heure qu'il est, si vous écoutez ce podcast sur le, www.radio-g.fr. Désolé, c'est l'émotion de vous retrouver avec cette nouvelle année, ça faisait longtemps. Au programme de ce soir, on va avoir du voyage, du jeu de rôle, du jeu tout court et puis de la nuit, pas mal de nuit. Eh bien écoutez, attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est beau micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par uniquement moi-même et c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On ne s'était pas vu depuis, on ne s'était pas écouté, entendu, enfin, surtout unilatéralement puisque moi je ne vous entends pas. D'ailleurs n'hésitez pas à vous mettre à votre fenêtre et à crier très fort que vous aimez la case de Seb. Ça me ferait beaucoup plaisir. Même si ce ne sera pas forcément très très utile, mais bon, hein, on fait comme on peut pour s'auto-congratulationner, je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas très très grave. Où j'en étais, je me suis perdu. Oui, on va parler, comme d'habitude, de bande dessinée, avec plein de petites choses. Je ne sais pas par quoi commencer, on pourrait commencer par des choses un peu plus jeunesse, avant que les enfants n'aillent se coucher. Oui, parce que, ben voilà, passer une certaine heure, il faut quand même aller faire dodo, et c'est plutôt pas mal d'y aller pas trop tard pour être en forme le lendemain à l'école. Hein ? Petite dédicace à mes enfants, tout de suite. Petite dédicace également à ma chère et tendre belle-sœur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle m'écoute, mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir, c'est gratuit. Allez, hop, avec quoi on commence? J'ai lu plein de bonnes choses et c'est toujours un petit peu dur en fait, de décider par quoi commencer. Allez, si on commençait par un complètement hors propos. Eh ouais, ça m'arrive souvent de parler de choses qui ne sont pas de la bande dessinée. Eh bien, je vais faire exactement la même chose ce soir, puisque je vais vous parler de Trouilleville, de Johan Trojanowski. Je suis désolé si j'écorche votre prénom, parce que je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut. Et Trouilleville, c'est un jeu de rôle qui est publié aux éditions Macaca. Macaca, qui est une maison d'édition qui publie beaucoup de bandes dessinées, mais aussi de livres dont vous êtes le héros, mais également des jeux de société, pardon, dont certains sont basés sur le concept de livres dont vous êtes le héros. Et je vais vous raconter une petite histoire à propos de Trouilleville. Trouilleville, c'est un jeu de rôle que j'ai découvert en lisant un album de Johan Trojanowski qui s'appelle Lune et Merlin. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce livre qui parle d'une jeune fille qui va aider un jeune garçon à retrouver une chèvre invisible, dont j'ai dû parler hein, dans la case de Seb, mais ça remonte à il y a 3 ou 4 ans déjà, eh bien, à un moment, on tombe sur une feuille de personnage. Alors, quand on est rôliste, on identifie ça très très facilement comme étant une feuille de personnage. Et moi, ça m'avait un petit peu surpris parce que c'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et on m'a dit, attends, Seb, tu verras, il y a un jeu qui va sortir dans pas très très longtemps qui s'appellera Trouilleville. qui est un jeu qui sera basé sur l'univers dans lequel se déroule Lunemera. Et moi, je me suis dit, ah bah c'est cool ça. C'est pas comme si j'étais un rôliste forcené et qui a envie de découvrir de nouveaux jeux quasiment tout le temps. Eh bien écoutez, sachez que c'est fait. Trouilleville est sorti, alors de mémoire, si mes informations sont bonnes, fin d'année dernière, je crois que c'est fin novembre. Et du coup, c'est un jeu qui est plutôt mignon, dans lequel les joueurs, les enfants, principalement, puisque c'est marqué le jeu de rôle pour les enfants. Donc c'est là aussi une petite distinction que j'ai envie de faire, c'est qu'on ne nous dit pas que c'est un jeu de rôle pour enfants. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle pour les enfants. Pour moi, il y a une distinction, puisqu'on les inclut vraiment dedans, pour les laisser être un petit peu maîtres du jeu. Bref, dans ce jeu de rôle pour les enfants, les enfants vont incarner des monstres, mais des monstres version mignonne. Hein. On va avoir des sorcières, des vampires, des golems, des savants fous, et d'autres structures dans un monde où il y a une ville qui s'appelle Trouilleville. Ça, vous l'aviez deviné, à mon avis. Et dans cette ville, qui est un ancien cimetière, les monstres vivent chacun dans des quartiers sous la tutelle d'un grand ancien. Et ils sont isolés, on va dire, du monde des humains par une grande forêt qui s'appelle la Silencieuse. Donc, ils vont pouvoir vivre des aventures dans cet univers-là, avec un système de règles, bien entendu, adapté pour les enfants. C'est un système de règles qui est très simple, qui est facile à prendre en main. Et du coup, ils vont pouvoir vivre des aventures qui vont un petit peu faire peur, mais pas trop. Parce que c'est eux les monstres, et les autres monstres qui peuvent faire peur, ça va être un petit peu d'être les humains. Voilà, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le dessin de Johann Trojanowski, ou Johann peut-être Trojanowski, bref, je vais arrêter de bugger sur le nom de l'auteur. C'est un dessin qui est très coloré. On a vraiment l'impression que c'est fait au crayon de couleur. Comme toujours, je ne suis jamais affirmatif là-dessus, parce que si ça se trouve, il fait tout en numérique et c'est impossible de le détecter, même si j'ai vraiment l'impression que c'est de l'aquarelle et du crayon de couleur. Et c'est très très mignon. Les monstres, on les reconnaît facilement. Vous voyez, il y a des espèces de profond, donc les créatures issues de l'univers de Cthulhu, qui sont des personnages à grosse tête avec des écailles. On a des golems qui sont plutôt des créatures faites de terre avec des petits branchages, ou des vampires qui ont les dents extrêmement longues. Enfin, extrêmement, elles sont beaucoup trop longues par rapport à ce qu'on peut voir dans les films, où justement on essaie de nous faire peur avec des choses qui sont plutôt discrètes. Et ça marche très très bien, c'est un jeu qui est plutôt joli, plutôt classe. Alors j'ai fait juste un petit reproche, c'est que je trouve que c'est écrit beaucoup trop petit. Alors peut-être que les enfants ont de meilleurs yeux que moi, qui commencent à avoir besoin de mes lunettes pour à peu près tout. Des années à user ses yeux sur des bouquins, forcément ça laisse des marques, mais je trouve quand même que c'est écrit pas mal petit. Mais bon, après c'est peut-être un détail. Le jeu est vraiment fun, le jeu est vraiment agréable à jouer. Je pense qu'un enfant aura aucun mal à s'accaparer, on va dire, l'univers pour pouvoir arriver à maîtriser le jeu en se passant tout à fait d'un adulte. Le jeu les guide comme ça. Au début, on a une histoire dont vous êtes le héros qui permet d'introduire un petit peu l'univers tout en incluant les mécanismes du jeu, et ça marche de manière assez efficace. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en faire... en faire trop des fois. Donc là, on a un bouquin qui fait une centaine de pages et qui est, ma foi, fort agréable à lire et à découvrir. Donc n'hésitez pas à le passer à vos enfants. Je redonne les références. C'est Trouilleville de Johann Trojanowski. C'est le livre 1, la Silencieuse. Le livre 2, qui est consacré au Marais de Clairbrun, si je ne me trompe pas, devrait sortir courant avril. Toujours, si je ne me trompe pas. Et c'est publié aux éditions Macaca. Donc voilà, si vous avez des enfants qui veulent découvrir le jeu de rôle, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes présent aux Nuits de la Lecture à la Bibliothèque Municipale, le 20 janvier, si je ne me trompe toujours pas, de 20h à minuit, eh bien il est possible que vous puissiez découvrir le jeu sous la houlette de mon comparse d'imaginaire, Romain Mallet. Voilà, voilà pour Trouilleville. J'espère que ça vous a tenté. En tout cas, le bouquin, vraiment, si on le met dans une étagère à côté d'autres livres de jeux de rôle, il y a de fortes chances que les enfants se dirigent tout seuls vers cet ouvrage-là, tellement il est bien présenté. De quoi parler ensuite? Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, je vais en parler maintenant. On avait parlé des ouvrages, des adaptations manga d'ouvrages Disney publiés aux éditions Nobby Nobby. Et moi, je suis tombé fan de Stitch et le Samouraï. Alors déjà, j'étais fan de Stitch avant, mais là, Stitch et le Samouraï, c'est encore plus fun. En fait, imaginez l'histoire de Stitch. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience scientifique qui fuit à destination de la Terre et qui se retrouve sur une île, c'est à Hawaï. Donc, une créature qui, dont la seule faiblesse est de craindre l'eau, se retrouve. Je recommence. Une créature destinée à détruire des grands environnements urbain se retrouve sur une toute petite île, et quand en plus sa seule faiblesse c'est l'eau, une créature comme ça sur une toute petite île, elle va commencer à péter un fusible parce que son but va avoir du mal à l'atteindre. Et bien là, elle atterrit à la période médiévale et au Japon. Donc pareil, une île, mais autre contexte. Et elle va, Stitch va tomber à côté d'un samouraï qui va commencer par le prendre pour un tanuki, donc les créatures, une sorte de raton laveur magique au Japon. Et du coup, il va se prendre d'affection pour ce tanuki qui semble lui porter bonheur malgré un caractère un petit peu de cochon. Donc c'est encore une fois, comme dans Lilo et Stitch, le film d'origine, une confrontation entre deux univers, entre une créature qui est globalement censée être méchante et diabolique, Stitch, et un univers où il est censé se passer plein d'autres choses, sauf ça. Et du coup, là, ça marche plutôt bien. On a un Stitch qui est extrêmement attachant, et puis on a un samouraï qui, à la base, devrait être un dominateur de monde et qui finit par devenir presque complètement gaga de cette petite créature très très chelou. Graphiquement, c'est plutôt bien travaillé. Hein. On retrouve la patte Disney. Il y a un côté vachement lisse, ce qui est... vachement lisse, comment dire. On retrouve le côté rond et bien travaillé de Disney. La personnalité de Stitch est bien représentée, tout comme son chara-design, ce qui fait que c'est plutôt cool. Des fois, on a des structures de manga qui sont assez différentes de ce qu'on a pu avoir dans l'original. Et en fait, là, ça marche très, très, très bien. Donc, c'est une série courte. C'est 3 tomes. Donc, ça ne va pas vous ruiner les étagères non plus. Ça marche très bien. Si vous aimez Stitch, vous allez adorer Stitch et le Samouraï. Si vous n'aimez pas Stitch, vous allez adorer Stitch dans Stitch et le Samouraï. Vous allez adorer la série et les films qui en découlent, même si la série est un petit peu moins bien. Et puis, si vous aimez pas, de toute façon, je ne vous parle plus, parce que Stitch, c'est vraiment un personnage génial à découvrir. Un petit plus dans cette édition chez Nobby Nobby, sur ces 3 tomes, c'est qu'en bas à gauche de chacune des pages, donc il se lit en sens original, vous avez un petit strip à animer. Vous savez, en flippant les pages, donc avec votre pouce, vous prenez le bas de votre ouvrage, vous faites switcher légèrement les pages et vous avez un petit dessin animé qui se passe, donc avec Stitch qui va dans un premier temps faire une espèce de petite danse, et puis dans l'autre, c'est un échange de mémoire de balles de tennis avec le samouraï. C'est ultra drôle, ça sert à rien, c'était pas obligatoire de le mettre, et comme ça y est, on ne peut que remercier les éditions Nobby Nobby de l'avoir mis. Je redonne les références, donc tout est complet, hein. Tout est déjà sorti, le tome 3 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment cool, donc je redonne les références, c'est Stitch et le Samouraï, c'est publié aux éditions Nobby Nobby et ceux de Hiroto Wada. Voilà, donc je vous propose de faire une première pause musicale avec, on vient de parler de Disney, on parlait de manga, de dessins animés, de trucs pour enfants, je vous propose de faire cette pause avec Kamini et Club Do.
Approche-toi de la téléportation en posant pas sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Parfois je tente la téléportation en posant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Bienvenue dans le club Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée. Hey 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 hey, hey c'est Dorothée, 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 bienvenue dans le club. Toi aussi le mercredi, matin après-midi, Ariane, Corbier, Jackie, Dorothée, tous les amis. T'as découvert le cosmos, génération en osmos, manga non-stop sans pause, l'enfance en douce névrose. Moi aussi je me suis transformé sur mon canapé, la mort de Krillin. Toi aussi tu as ressenti les vibrations de Goku Super Saiyan. Mais qui es-tu aujourd'hui? Tes vieux sensei que tu t'ont appris. Es-tu méchant, gentil, ami ou ennemi? Les chevaliers du Zodiac, Interus et Goldorak, Majo Pupour du Galak, plutôt Batak de Balzac, Nicky Larson, Mark Landers, Olivier Dom. Quel le survivant, je me suis jamais remis de la mort de Ré jusqu'aujourd'hui. Bienvenue dans le club Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée. Parfois je tente la téléportation en posant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Tu ne t'es pas remis de certaines batailles qui ont marqué les esprits. Sans plus, les heures free, c'est la même aujourd'hui. Naruto de Snow Bleach, entre ciné clinique, mais cette maladie chronique. Tu sais pas pourquoi, mais des fois tu chantes un générique. Je pose toi, dis vraiment le mercredi. Et que t'es pas devenu, tu peux pas en aujourd'hui. Ça te cause de qui? Dorothée, 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 bienvenue dans le club Dorothée, 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 bienvenue dans le club Dorothée. Si toi aussi t'as été drogué au chevalier du Zodiac Dragon Ball Z, bienvenue dans le club Dorothée, bienvenue dans le club Dorothée. Olivier Tom, Nicky Larson, One Piece, Naruto, Shinpunden, bienvenue dans le club Dorothée.
Le Meteor de Pégase.
Moi je tente la téléportation en poussant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Yo, bienvenue dans le club Dorothée. Dédicace à ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés. Ariane, René, Corbier, Framboisier.
La mort de rire en quête de survivants, c'est abusé. Dans One Piece aussi.
Ouais. Bienvenue dans le club Dorothée. Bienvenue dans le club Dorothée. Bienvenue dans le club Dorothée. Hey 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 hey. Say. Parfois je tente la téléportation en posant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Berserk Akira, in the club. Albator Cobra, in the club. Gantz Ken, in the club. Entering Center, in the club. One Punch Man, in the club. XOR GTO, in the club. Fairy Tail, in the club.
Le Club Dorothée sur le 101.5 de Radio G, c'était Camini. Et ouais, quand on a un certain âge, bah écoutez, on a tous les mêmes références. Voilà, même si tout n'est pas forcément ultra génération accurate, mais voilà. Bref, on va pas faire de la fine bouche, ça fait bien plaisir quand on parle de notre jeunesse. On reste toujours dans la jeunesse, puisque j'ai plein de trucs jeunesse à vous parler. On va parler par peut-être le truc le moins jeunesse des trucs jeunesse, à savoir un album qui est adapté d'une œuvre romancée classique. Alors vous me dites, Seb, déjà tu nous as perdu, comment on peut faire du jeunesse avec du roman classique? Eh ben, je vais vous l'expliquer. On va parler de Gargantua, d'après l'œuvre de François, comment il s'appelle ? François Rabelais, c'est bien, vous avez suivi. Cette œuvre de François Rabelais, donc Gargantua, qui a été adaptée aux éditions Jungle par Faucheur, Loyer et Parada. Alors, qui ne connaît pas Gargantua? Alors, quand on est de la région, normalement Gargantua, ça parle plutôt pas mal, parce que y a plein de références, vu qu'il était un petit peu par là, pendant un moment. Gargantua, c'est l'histoire d'une famille de géants dont la maman va accoucher au cours d'un repas d'un grand garçon qui va s'appeler Gargantua. C'est l'occasion, avec cette œuvre-là, pour François Rabelais, de critiquer beaucoup, beaucoup de choses, notamment l'éducation et la religion, grâce à travers en fait ce personnage de Gargantua. Faut savoir que c'est écrit en vieux français à la base, Gargantua, et c'est pas forcément le truc le plus funky à lire quand vous avez 12-13 ans. Mais le fait de l'établir en BD, bah, ça permet vraiment Le fait d'en parler en bande dessinée, ça permet de prendre un peu de recul, déjà de moderniser un peu le texte, d'y rajouter un petit peu d'humour, et puis de le rendre beaucoup plus accessible au jeune public. Là, dans l'ouvrage, on a plusieurs choses. Alors, je me rappelle de Gargantua il y a très longtemps, mais je ne me rappelais pas que François Rabelais lui-même introduisait différents passages, puisqu'en fait, là, ce n'est pas l'œuvre complète qui est adaptée, mais plusieurs chapitres importants de l'œuvre Gargantua. Et entre chacun, on fait intervenir François Rabelais pour faire soit un trait d'esprit, soit une petite explication, avec quand même un petit trait d'esprit, une petite dose d'humour. Ça marche bien. Je ne vois pas comment le dire autrement. Ça marche bien, puisque on a envie... alors, moi, j'ai passé un petit peu l'âge de découvrir, même si j'aurais peut-être envie de le redécouvrir, mais je pense qu'un jeune garçon ou une jeune fille qui lit cette BD va avoir envie d'approfondir un petit peu Gargantua et de découvrir ce que c'est. Alors, dans une version un peu plus poussée, hein, très certainement par la suite. Mais du coup, ça permet d'avoir plein de choses. Ça permet de découvrir les guerres picrocollines. Je ne suis plus sûr du mot, je suis désolé. Ça permet de découvrir aussi que certains mots qu'on n'a pas envie du tout que nos enfants répètent sont simplement en fait des citations hein, de Rabelais. Donc voilà, il y a des gros mots qui sont des citations rabelaisiennes. Et puis c'est truculent en fait, c'est très très drôle les aventures de Gargantua. Voilà, il y a des choses qui feront beaucoup rire les enfants, notamment lorsque Gargantua arrive à Paris et qu'il il fait une petite miction sur les passants. Alors c'est soft, hein, je tiens à préciser, il n'y a pas de passage trop osé, même si je crois que le texte ne propose pas de ce genre de prestation, mais il y a de la bagarre, il y a des têtes, il y a des yeux qui sautent, il y a des boyaux qui s'éparpillent. Mais globalement, c'est fait de manière assez, cartoonesque. C'est une BD qui est plutôt humoristique hein, dans sa globalité. Et le dessin va avec. Donc il y a un peu de violence parce qu'il y a de la bagarre, parce que effectivement, c'était l'époque. Mais c'est fait de façon un peu cartoon. Donc ça passe globalement pour les enfants. 12-13 ans quand même, hein, parce que effectivement, c'est pas. On n'a pas forcément envie de voir ses enfants lire quelque chose où des gens se font écrabouiller ou décapiter. Mais bon, voilà, sachez que c'est la seule chose qui vont pouvoir vous poser problème. Après, n'hésitez pas à faire de la médiation avec les enfants, tout comme Rabelais le fait à chaque fin de chapitre. Comme c'est une BD qui est globalement éducative, il y a un petit cahier à la fin de 4 pages dans lequel on va vous expliquer qui était Rabelais, quel menu en fait pouvait manger Gargantua par exemple, et d'où l'expression « un repas gargantuesque ». Et puis on va vous parler de médecine, on va parler d'humanisme, on va vous parler de plein de petites choses, et c'est vraiment très agréable à lire. Donc si vous voulez faire découvrir Gargantua les œuvres rabelaisiennes à vos enfants, n'hésitez pas à vous rejeter sur ce Gargantua, d'après l'œuvre de François Rabelais, publié aux éditions Jungle, par Faucheur, Loyer et Parada. Voilà pour Rabelais. De quoi parlons-nous ensuite? Une petite pépite. publié aux éditions Delcourt Jeunesse avec Merlin de Loïc Clément et Carole Morel. Alors, ces noms-là, ce sont des noms qui vous parlent certainement. Alors, Merlin, oui, ça vous parle, mais non, ça n'a aucun rapport avec les légendes arthuriennes. Là, c'est le prénom d'un jeune garçon que vous avez certainement déjà entendu associé au nom de Loïc Clément et Carole Morel. Oui, c'est un des livres qui s'inscrit dans les Contes des Cœurs Perdus et qui vient clôturer un triptyque. Un triptyque commencé avec, de mémoire, je voudrais pas me tromper, avec Chaussette, et continuer avec Jeannot, et qui se clôture dans Merlin. Merlin, c'est l'histoire du petit garçon qui est le narrateur de Chaussette. Chaussette, cette histoire où on découvre une petite grand-mère et son chien, et qui s'imbrique avec celle de Jeannot. Et en fait, ce Merlin vient boucler un petit peu l'histoire, des histoires très simples en fait, mais des histoires du quotidien, des histoires de vie, des histoires d'humains qui sont écrites avec du cœur. Je vois pas comment le dire autrement, puisque Loïc Clément a cette capacité en fait à toucher les gens de manière la plus simple possible avec des récits qui sont moi, j'ai tendance à vouloir dire authentique. On ne va pas nous raconter n'importe quoi, on ne va pas nous mettre de l'esbrouf, on va essayer vraiment de nous raconter une belle histoire de la manière la plus simple possible et de la manière dont ça doit toucher. Et là, on va avoir un jeune garçon qui a des soucis, on va dire, sentimentaux, mais pas que. Et du coup, tout ça entremêlé, ça lui pose des petits problèmes. Ça lui pose des petits... Il a du mal à gérer ses émotions, en fait. Et du coup, c'est vraiment compliqué pour lui. Et du coup, en fait, Chaussette, donc c'est une grand-mère qui s'appelle Josette, hein, mais qui est surnommée Chaussette par le jeune garçon, va essayer, en fait, de l'accompagner, de le guider un peu dans ses sentiments, avec toute la tendresse qu'elle peut. Et lui, il va prendre ça avec toute la maladresse qu'il a compris, ce qui fait que ça peut créer des petites tensions. Mais bon, je ne vais pas vous raconter le récit, c'est à vous de le découvrir. Allié à ça, en fait, on a aussi le dessin de Carole Morel qui est vraiment très agréable à lire. On a ce côté un peu, je ne sais pas comment le dire, un peu crayonné, un peu ancien, un peu très doux en fait sur les couleurs. Là, je pense qu'on est quand même sur du numérique, même si encore une fois, je ne sais pas du tout faire la différence. Mais on a vraiment quelque chose de très doux, très agréable, que ce soit dans le design des personnages, que ce soit dans le traitement des couleurs. Et ça donne quelque chose de vraiment très, très intéressant et plutôt agréable à lire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est un pur moment de bonheur. Faites-vous le triptyque global, Chaussette, Jeannot, Merlin, dans la suite. Et vous allez passer un très, très bon moment. Comme on passe généralement avec un ouvrage de Loïc Clément. Je pense que les éditions Delcourt ont eu bien raison de rebrander un petit peu ces albums pour les intégrer dans une collection qui s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus, qui à la base a dû commencer avec une histoire de vampire de mémoire, c'était le premier. J'ai un gros doute, je ne sais pas, c'est peut-être Le Voleur de Souhait ou Dracula, enfin bref. Ils ont eu plusieurs ouvrages comme ça qu'ils ont réintégrés dans une nouvelle collection qui commence à avoir un petit peu d'âge maintenant, mais qui s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus. Donc voilà. Si vous voyez Les Contes des Cœurs Perdus, n'hésitez pas à y aller. Vous êtes quasiment sûr que ça va être de la bonne came et que vous allez passer un très très bon moment à lire si vous avez su garder l'amour, on va dire, des sentiments simples et que vous savez être touché au cœur. Et on peut être sûr que Loïc Clément est capable de le faire de manière très efficace. Je vais vous reproposer une nouvelle pause musicale. J'ai deux choix. Je vais faire... on va remonter un peu le moral avec un petit peu de funky, avec les Red Hot Chili Peppers et Poster Child. Hell with dancing at the Taco Bell. When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel. Adamantan robber, plant the banter of a sycophant, enlisted by Ulysses Grant to record at the record plant. Islam
my body's on the night Havana at the riot squad. And if you want to be a mod, you'll have to meet me at the quad. You got the best of my logo. I'll take the rest of your showboat. You got the best of my Yoko. I'll take the rest of your no-no. Parliament's atomic dog, the hats were filling up with fog. Talk about the life and death of every penny analog. The 70s was such a win, singing the Led Zeppelin. Lizzie looking mighty. Won the lottery, the numbers never thought of me. Remote had a lobotomy, so spin me like a pottery. I will be your poster child. You know the world is ours for a little while. And then I will be your poster child tonight. Ow. La da 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 ba 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 da. Neon Mona Lisa, Judah Priest, the sweet Fabrice, the mother love was named Teresa. Bubblegum, I come bazooka, dirty dandy, Nanda Luca. Smoke banana in your hookah, now I know the brand is Ruka. Ernie Mac and Caddy Shock with dusty as the pick of bracken. If you ask me for the time, I'll tell you that the future's back. You got the best of my logo. I'll take the rest of your showboat. You got the best of my Yoko. I'll take the rest of your logo. Steve Miller and Duran and Joker. In the Oscar man, a festival that heaven can speak a Chico with the man, the silence of a certain land. Nancy Five kick off the jam, a poncho full of contraband. Mary Queen was on the scene, the Every Kitty magazine, the Motorhead and Mr. Clean. My sister needed Babylene. I will be your poster child. You know the world is ours for a little while. And then I will be your poster child.
Funky des Red Hot Chili Peppers sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. Vous êtes toujours à l'écoute du meilleur du manga, du comics et du franco-belge. Alors on a parlé pas mal de franco-belge depuis tout à l'heure. Non, on a fait une incursion du côté du manga. On va rester du côté du franco-belge avec un ouvrage qui combine deux auteurs que je n'aurais jamais vus ensemble. Ça combine le scénariste Marc Dubuisson, que je connais pour ses ouvrages aux éditions Delcourt dans la collection Patakès. Donc, les aficionados connaîtront et se rendront compte que dans les éditions Patacas, c'est plutôt des BD humoristiques à tendance un peu potache, et de Si, donc C-Y point, qui elle est plutôt dans des BD engagés avec des belles histoires, ou des BD qui vont te raconter des choses au dessin. Alors je ne sais pas vraiment si elle ne fait que le dessin, mais je crois que c'est plutôt vraiment Marc Dubuisson scénariste et Si, ou Sai, je ne sais pas, je suis désolé, au dessin. Et l'album s'appelle Anna et l'Entremonde, et c'est publié aux éditions Glénat. Alors, comment je vous explique ça ? En gros, faut imaginer, en 1492, aux Canaries, il y a un type qui a décidé de rejoindre les Amériques, de traverser le monde pour prouver que la Terre n'est pas plate et de découvrir un nouveau monde. Et on va suivre deux orphelines qui, par un concours de circonstances, vont se retrouver sur un des bateaux de ce type-là et qui vont commencer cette traversée plutôt dangereuse, puisque l'intérieur, peu de monde n'a l'air de vouloir les accepter. Ça reste quand même des personnes qu'il va falloir nourrir pendant une traversée qui va être longue et incertaine. Et puis, surtout, une fille à bord, c'était pas forcément, ça portait pas forcément bonheur. Donc, ces deux jeunes filles vont, bien malgré elles, se retrouver dans cette expédition et devoir participer à cette expédition pour gagner leur pitance. Mais voilà que ça commence à devenir compliqué. Pas mal de choses qui se déroulent, notamment les périls à traverser une immensité d'eau, à savoir moins de... Je n'y arrive pas ce soir, décidément. Moins d'eau potable, puisqu'on ne peut pas la prendre directement dans l'océan, c'est salé, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, moins de nourriture, ce qui fait qu'à un moment, les questions se posent de savoir s'il faut les conserver. Mais voilà, qu'arrive un moment assez original et assez intéressant, à savoir qu'ils vont rencontrer non pas une terre sur laquelle ils vont pouvoir venir se poser et puis peut-être se réapprovisionner, mais simplement la fin du monde. Oui, alors la fin du monde, c'est pas la fin du monde as we know it, où le monde va s'éteindre, mais surtout le bout du monde, puisqu'effectivement, dans cet univers, la Terre semble plate et prendre fin dans de gigantesques chutes d'eau qui vont vous faire tomber. Et c'est là qu'ils vont, que Anna va se réveiller dans, pas un autre monde, mais l'entre-monde, là où vont toutes les personnes qui s'échouent en dehors de leur propre monde, notamment en allant jusqu'au bout. Et là, elle va découvrir plein de choses différentes, des individus en forme d'animaux, des technologies qu'elle ne connaissait pas, et elle va devenir le centre d'une attention bien malgré elle, parce que peut-être elle détiendrait certaines choses ou certains trésors que beaucoup de personnes veulent avoir. Anna, elle ne veut qu'une chose, c'est retrouver sa copine avec laquelle elle était sur les bateaux. Mais voilà. Là, je vais pas vous raconter plus, mais c'est on arrive là-dedans et c'est vraiment super. C'est à la fois une synthèse en fait de deux choses, du talent de Marc Dubuisson à faire des blagues et du dessin, on va dire, c'est du dessin de Si. Faut savoir que Marc Dubuisson était très très bon dans les vannes, et en lisant son nom sur un album, je me suis dit mince, qu'est-ce que ça va donner une histoire au long cours. Ça marche en fait, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur de passer du gag en une plage, en une planche, de passer un récit plus long, ça marche. Il y a des blagues, hein. Faut pas, on change pas une équipe qui gagne ni un savoir-faire, mais l'histoire au long cours marche pour l'instant. On arrive dans un univers assez étrange qui fait peur, qu'on a envie de découvrir, et ça marche vraiment très bien. On se passionne pour cette histoire. n'y a pas beaucoup de, comment dire, de temps mort. C'est plutôt très rythmé hein, comme aventure, ce qui fait qu'on le lit très très vite. Donc c'est vraiment, c'est peut-être le seul truc que je trouve dommage, c'est que, enfin, ça c'est moi, c'est lire trop vite un livre, je trouve que ça reste toujours dommage. Après c'est l'occasion de le reprendre, de le relire et de redécouvrir des choses. Surtout que là, voilà, le dessin d'Ossie est vraiment très très agréable. Je crois savoir qu'elle n'avait quasiment pas dessiné d'eau ou d'océan avant, et bah, ça marche très très bien, avec quelques pages qui sont vraiment sublimes. La chute des bateaux à travers l'océan est vraiment très très belle. Il y a plusieurs autres pages comme ça qui sont très très dessinées. Là, je pense que c'est que de l'aquarelle. Encore une fois, je suis très nul à détecter les techniques de dessin, n'étant pas dessinateur moi-même, mais c'est vraiment très très beau. C'est des dessins qui sont très agréables. Les personnages sont hyper attachants. Les designs, comment dire, les personnages ont cette espèce de malléabilité qui fait que leurs articulations ne sont pas toujours... on va pas dire pas bonne, mais il y a un côté un peu rond. C'est ça que j'essaie d'exprimer depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté un peu rond et très, très agréable en fait, dans ce dessin qui est hyper, hyper sympa. Donc voilà, moi, ça a été un beau coup de cœur de découvrir cet album-là, et je ne saurais que vous le conseiller. Allez-y, c'est vraiment très très bien. Je n'ai pas regardé en combien de tomes c'était prévu, mais faites-en plein. Parce que du coup, moi, je vais en lire plein. Pour l'instant, c'est le tome 1, mais j'ai pas vu combien il y a de tomes de prévu. Bref, c'est pas très très grave. Je vous redonne les références. C'est Anna et l'Entremonde. C'est de Marc Dubuisson et Si Sai. Je suis désolé encore une fois si je me trompe. Aux éditions Glénat. Et c'est vachement bien. C'est vraiment très très bien. Alors, on va continuer avec peut-être ce qui va être un peu plus du comics, là, avec Mundus, aux éditions 404. Alors là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus... comment dire ? Déconstruit, un peu plus complexe à expliquer. C'est un ouvrage de Laurent Kissy et Auriol Roig. Donc Laurent Kissy au scénario et Auriol Roig au dessin. Et c'est un ouvrage, alors c'est un volume infusé d'aventures multidimensionnelles que j'ai dans les mains, donc publié aux éditions 404. Et on va suivre l'histoire d'un groupe d'amis qui, lors d'un concours de circonstances que même eux et même nous ne parvenons pas vraiment à expliquer, en gros, ils sont à une fête, et à un moment, ils se retrouvent dans la chambre de l'un d'entre eux. Ils passent ce qui semble être une barrière dimensionnelle et se retrouvent dans un autre univers qui va leur rappeler quelque chose. Oui, parce qu'en fait, cet univers va fortement leur rappeler un film et des romans. Alors, un film qui n'adapte qu'une partie des romans, mais du coup, il y a plein d'éléments qui semblent correspondre à cet univers de romans et à cet univers de films. Donc ça donne lieu à des discussions entre les protagonistes pour savoir lequel était le mieux, mais en tout cas, ça leur parle. Et ces personnages vont trouver d'autres personnages qui sont présentés dans l'intro, une sorte de hacker futuriste et une jeune femme qui semble très très forte au combat, qui semblent eux provenir d'un autre univers et savoir un petit peu plus de choses sur les portails. Et bon, de fil en aiguille, au départ, comment dire, l'alliance ne va pas se faire de manière aussi simple, mais ils vont commencer à être obligés de collaborer après être passés dans d'autres mondes, rappelant notamment d'autres univers écrits ou romancés, je ne sais pas, d'autres univers imaginaires, dont par exemple un univers de jeu de rôle avec des vampires. Voilà. Donc ça a l'air un peu fouillis, Effectivement, quand on va le lire la première fois, faut s'accrocher un petit peu parce que il y a plein, ça va dans tous les sens et on a un petit peu du mal à savoir dans quel sens ça veut aller pour nous faire lire quelque chose de sympa. Mais une fois canalisé, une fois qu'on arrive, qu'on passe à peu près à la moitié du bouquin, on commence à recoller certains morceaux et à se dire qu'il y a des choses qui sont pas normales, mais on les comprend un peu plus, on comprend un peu plus les artifices qui vont permettre de les retenir ensemble. Et puis on va pouvoir aller vers une fin de chapitre qui est un cliffhanger, mais on ne sait pas trop où ça va aller. Graphiquement, on est, je parlais de comics, on est proche en fait des designs comics avec pas mal de traits, pas mal d'actions, des cases complètement éclatées et ça marche bien. C'est peut-être un petit peu chargé parfois, mais voilà, comme le comics, on a tendance à faire pas mal de choses qui sont remplies, mais c'est très dynamique. Ça fonctionne bien. Les personnages sont plutôt charismatiques pour les deux protagonistes originaux, alors que le groupe de personnages qu'on va suivre a plutôt un design un peu lambda. Après, c'est normal, c'est des personnages qui sont issus de notre monde et qui sont forcément moins intéressants que les personnages issus d'un monde fantastique. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça marche bien. Voilà, allez-y, foncez, je pense que vous ne serez pas dessus. Voilà, je lis au dos de l'album que Laurent Kissy est un traducteur et spécialiste de l'œuvre de Philippe K. Dick, dont on retrouve pas mal d'infos, d'influences, on va dire, dans l'ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment plutôt cool et vous allez passer un bon moment. Je redonne les références. Il s'agit de Mundus de Laurent Kissy et Auriol Roig aux éditions 404. On va se refaire une dernière pause musicale avec un petit truc plutôt chill, alors qui n'est pas récent. Hein. Je ne saurais pas redonner la date de sortie, mais c'est Brand 23000 et Drinking Hill in L.A.
Hi, my name is Stereo Mike.
Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said what's a form of rock for. Let's see about that.
Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding, and I want those three Brand Van tickets, man. Todd!
He's alive! Alive!
Todd! I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie, you are here to get your ass out of bed. Hey. He said, I'll explain it on the way.
We did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? I got the fever for the flavor, the hate that could relate, but still I need a fix.
Again, firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie.
Yeah, right.
But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26?
With my mind on my money and my money on mine.
Taking with him.
Drinking in L.A., boire à Los Angeles, sur le 101.5 de Radio G. C'était Brand 23000, Brand 2300, sur le 101.5 de Radio G. Donc, si vous ne connaissez pas ce collectif, c'est vraiment super cool à découvrir. Donc, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas. Bref, on est de retour sur la case de Seb. On attaque la dernière tranche de cette émission. On s'approche de la nuit et du coup je vais vous parler de deux mangas avec la thématique de la nuit. Alors un pas vraiment parce que du coup ça s'appelle Coffee Moon, donc ça parle de lune, mais la lune on la voit mieux la nuit, donc j'ai raison. Et si vous n'êtes pas d'accord, et ben c'est quand même moi qui ai raison. Et du coup on commence donc avec Coffee Moon de Mochito Botta, publié aux éditions Doki Doki. Par où commencer ? Pieta, c'est une jeune fille qui sourit tout le temps, qui a un optimisme assez, assez phénoménal, malgré le fait que sa ville soit plongée constamment dans la pluie. Alors, on sait que le temps extérieur a tendance à jouer sur le moral des gens. Et bien là, même s'il pleut tout le temps, Pieta, elle est toujours joyeuse, toujours de bonne humeur et elle a tendance à voir du bon côté plein de choses. Et pour ça, elle est très prévoyante. Elle prévoit un repas en plus au cas où le restaurant où elle achète ses plats emportés ne serait pas ouvert. Excusez-moi. Elle a un parapluie de secours au cas où son premier parapluie casserait. Enfin voilà, elle est vraiment très optimiste et puis tout se passe ultra bien. Elle est vraiment hyper rigolote en fait à regarder. Elle a 16 ans, donc c'est l'âge à laquelle habituellement on n'est pas autant optimiste. On a tendance à un peu ronchonner après l'univers, mais là elle est super contente et elle va dans une école d'art. Et elle a une amie qui s'appelle Danaello dans cette école d'art et voilà, tout se passe bien. Et puis à un moment il y a un petit twist, puisqu'en fait on se rend compte que Pieta, ça fait juste un peu plus de 1000 fois qu'elle vit la même journée, puisqu'elle est coincée un petit peu comme le jour de la marmotte avec Bill Murray, dans une journée qui ne s'arrête jamais. De se rejouer en boucle, ce qui fait que bah, effectivement elle prévoit un parapluie de secours, effectivement elle prévoit un repas de secours, effectivement elle est capable d'éviter une flaque, une voiture qui serait capable de l'éclabousser, parce que ça elle l'a vécu plus de 1000 fois et que peut-être son optimisme forcené fait que c'est sa seule raison de continuer à vivre dans cet univers où rien revivre tous les jours la même chose, ça peut être absolument ignoble. Et puis à un moment il va se passer un truc, sa copine Danaello, elle va se mettre à la suivre aussi dans cette journée en boucle, et elles vont ensemble commencer à essayer de comprendre comment ça fonctionne, même si Pieta a déjà essayé beaucoup de choses. Et puis elles vont déjà pouvoir s'accompagner l'une l'autre, puisqu'elles sont les deux seuls personnages en fait à se rappeler des événements qui sont arrivés la veille, même si c'était la même journée et que le matin réinitialise un petit peu tout. Donc une histoire en fait où on connaît un petit peu la base, les boucles temporelles, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais du coup là ça marche bien, on a peu de personnages et puis il y a des petits événements qui vont à un moment changer un petit peu tout ça. Et puis le fait d'avoir ce personnage de Pieta qu'on pourrait avoir envie de baffer en temps normal, là on peut que saluer son optimisme à toute épreuve dans une situation qui aurait mis la santé mentale de n'importe qui par terre en quelques instants. Donc ça marche très très bien. Graphiquement, c'est super joli. Alors il y a cette espèce de pluie constante qui donne une nuance de gris quasiment tout le temps, qui marche bien. Je ne sais pas, ça doit être de la trame en termes de dessin, cette espèce de crayon qu'on va pouvoir tramer sur le dessin. Mais ça marche très bien, le dessin, les designs sont plutôt jolis, les personnages féminins sont plutôt agréables. Il n'y a pas de plan culotte, il n'y a pas de fan service à tout bout de champ, même si les personnes qui sont atteintes d'un lolicon complexe pourront y trouver leur compte. Hein. Attention, chose que je n'encourage pas, mais ça marche très très bien. Les personnages sont cool, un peu barrés, et ça marche vraiment très très bien. Donc je vous conseille ce Coffee Moon de Mochito Botta, publié aux éditions Doki Doki. Et puis le deuxième s'appelle Call of the Night. Comment dire ? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui... donc c'est Call of the Night, c'est de Kotoyama, c'est publié aux éditions Kurokawa. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui souffre d'insomnie. Un jeune garçon déscolarisé. Alors on ne sait pas vraiment si son insomnie est due au fait qu'il soit déscolarisé ou si c'est le fait qu'il soit déscolarisé qui a causé son insomnie. Mais bref. Et il va plus du tout à l'école. Et le soir, en fait, un jour, il décide, hein, peut-être une nuit, près d'un lac, enfin bref, surtout la nuit, il décide de sortir dans le dos de ses parents pour aller se promener dehors. Et là, il va tomber face à une femme qui a l'air plutôt jeune, mais qui est d'un âge plutôt indéterminé, qui va commencer à discuter avec lui. Et on va se rendre compte assez vite que cette jeune femme n'est pas si jeune que ça, puisqu'elle a un âge certainement très avancé, puisqu'il s'agit en fait d'un vampire, et que en fait elle a qu'une envie, c'est de coucher avec le héros, avec Nazuna, non. Il s'appelle le garçon. Enfin, quand je dis coucher, c'est qu'il s'endorme à côté d'elle pour pouvoir lui sucer son sang, parce que le sang d'un humain qui dort en pleine nuit a meilleur goût. Et apparemment, le sang de Ko est très, très délicieux. Donc, c'est plutôt intéressant pour elle de faire ça. Et du coup, Ko va avoir une petite requête, puisque comme le monde des humains ne l'intéresse absolument pas, il a envie d'être transformé en vampire. Voilà. Mais seul problème, c'est pas parce que tu t'es fait mordre que tu deviens un vampire. Parce qu'il y a une règle, alors, on va dire TGCM, hein, tais-toi, c'est le manga, c'est que pour devenir un vampire, il faut tomber amoureux de la personne qui nous a mordu. Et pareil en retour. Et du coup, Ko va se mettre à tenter de tomber amoureux de Nazuna, ce vampire qui l'a mordu. Et ça ne va pas se passer aussi simplement que prévu, puisqu'il va aussi découvrir que peut-être il y a des humains qui sont amoureux de lui. Mais bon, ça, ce sera l'occasion de le découvrir plus tard. Je vais faire très rapidement sur la partie dessin. On a un design qui est plutôt, qui est plutôt efficace, qui marche très très bien. C'est assez incisif, ça marche bien. Je ne vois pas quoi rajouter de plus. C'est un manga qui fonctionne, qui est plutôt drôle, plutôt sympa. Il y a beaucoup d'allusions sexuelles, justement, la transformation vampire, le fait de sucer du sang, le fait de coucher. Il y a plein de doubles sens dans cette série. Mais ça marche vraiment bien. Donc n'hésitez pas à lire Call of the Night de Kotoyama, publié aux éditions Kurokawa. That's all, folks. Oui, vous l'avez entendu, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Je suis désolé d'avoir abrégé un petit peu Call of the Night, mais vraiment c'est très sympa. Je suis encore une fois très heureux d'avoir passé cette heure en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour les Voix du Scénarium de 22 à 23 heures mardi prochain, et puis dans 15 jours sur la case de Seb pour de nouvelles lectures. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trouvez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision.
et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.